font réagir. Voici Louis Lacroix.
Il est midi 22 minutes. Le méga piratage informatique dont a été victime la chaîne hôtelière Marriott au cours des derniers mois aurait permis aux pirates de mettre la main sur les données de 5 millions de passeports, des données qui n'étaient pas protégées. Et le groupe hôtelier pense aussi que les informations de 8,6 millions de cartes de paiement, lire ici des cartes de crédit, étaient dans la base de données. Donc, les pirates pourraient aussi avoir accès à ces informations. Alors, évidemment, quand on parle de piratage à grande échelle, on pense souvent soit aux Russes ou encore à la Chine. Mais la question que ça sous-tend, c'est est-ce qu'on est suffisamment prudent avec nos cartes de crédit, avec nos informations personnelles? Si vous voyagez un peu, si vous louez des chambres d'hôtel, tous ces renseignements-là sont dans les banques de données de plusieurs hôtels. Alors, est-ce qu'on n'est pas vulnérable, justement, en étant aussi, aussi généreux avec la distribution de nos informations personnelles? Steve Waterhouse est expert en sécurité informatique. Bonjour, M. Waterhouse.
Bonjour, Louis.
Alors, est-ce que ça vous surprend que autant de données là, de chez Marriott soient entre les mains de pirates en ce moment?
Ben, je suis très surpris, surtout Louis, d'apprendre que ce chiffre fantastique de 5,25 millions de numéros de passeport était non chiffré, autrement dit pas encrypté, ouais, dans les bases de données de l'organisation. Et on revu à la baisse aussi, le nombre de personnes impactées serait de l'ordre de 383 millions et non pas de 500 millions initialement comme vu. Ouais. Mais il reste toujours bien que nous, comme utilisateurs, consommateurs, voyageurs, il faut donner un minimum d'informations aux organisations comme une chaîne hôtelière. Mais aussi, il ne faut pas en donner trop, parce que trop souvent, les gens ils vont se faire demander sur 15 questions, ils vont remplir les 15 cases, alors qu'il serait juste nécessaire d'en remplir 5 pour l'information minimale pour que l'hôtelier puisse avoir nos identités. Et c'est ça qui blesse un peu. Cependant, la responsabilité revient en grosse partie sur les institutions, sur les organisations qui détiennent les données et qui doivent démontrer justement qu'il faut qu'ils prennent soin de ces données-là, ce qui en résulte à des failles, et à ce moment-là, c'est exploité et revendu sur le marché noir.
Non, mais il reste que la chaîne Marriott est l'une des plus importantes au monde. Là, c'est pas le motel du coin. Là, c'est quand même une chaîne extrêmement sérieuse qui aurait dû mettre énormément d'efforts et d'argent pour protéger les données personnelles de ses clients. Ils l'ont pas fait. On peut penser que d'autres chaînes peuvent aussi être dans la même situation. On ne sait pas.
Et même, je peux te rassurer, Louis, même peut-être de faire un petit peu plus peur. Beaucoup d'organisations à grand déploiement, ils ne prennent pas le temps de le faire. Ils naviguent, ils ne peuvent pas dire, ils surfent sur la vague de leur réputation puis disent, nous autres, ça ne nous arrivera pas, on est trop gros. Ouais. Mais on l'a vu avec Equifax, je veux dire. L'année passée, là, Equifax, là, il y a 2 ans plutôt, c'est vraiment une détermination de l'arrogance des organisations comme ça, mm-hmm, qui disent, ben, on verra ça un peu plus tard, nous autres, qu'on continue à faire de l'argent. Malheureusement, là, après coup, c'est nous, les utilisateurs slash clients, qu'on est pris avec le fardeau après de se démerder à prouver notre identité alors qu'elle est compromise. Dans le cas des cartes de crédit, c'est pas grave, les institutions veulent remplacer, mais souvent, un numéro de passeport, ça devient un peu plus onéreux, puis je sais pas, les gouvernements, comment est-ce qu'ils vont dealer avec ça.
Bon, alors, justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire si on est une personne mal intentionnée, qu'on a entre les mains ces banques de données-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Jusqu'où on peut usurper ou frauder l'identité des gens?
Ben oui, c'est un scénario premier, Louis, où l'identité des gens, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est d'aller chercher des prêts, acheter du matériel, faire des cartes de crédit, etc. Et la facture réelle revient à l'utilisateur réel, la personne en chair et en os. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, dans le cas de Marriott, où ce que c'est très intéressant d'aller chercher, de mettre la main sur ces informations-là, c'est d'être capable de traquer les gens sur un temps donné, où ce qu'ils ont été dans le monde. Dans le sens que ça, c'est des informations qui sont quand même sur les 4 dernières années. Et si je suis un gouvernement, où ce que je suis intéressé à savoir les présidents d'entreprises de pointe que sont mon compétiteur, où ils vont résider, où est-ce qu'ils vont en voyage, ça devient très intéressant de suivre à la trace, parce que souvent, l'hôtelier va garder en note partout où ils vont aller. Et c'est cette information-là qui vaut cher et qui peut être revendue sur le marché noir pour des fins, justement, d'espionnage industriel par la suite. Donc, c'est pas rare qu'on va voir l'exploitation des données quelques années, peut-être même après, mais dans ce cas ici, là, je veux dire, ça remonte longtemps. Mm-hmm. Et c'est aussi pour pas aller à la défense, mais plutôt mettre en contexte. Ils ont fait une fusion avec Starwood que Marriott a acheté, et c'est surtout dans cette période-là, je crois, qu'il y a eu des failles qui se sont insérées et qui n'ont pas vu, qui ont assumé que tout est correct. Et ça en a résulté à ce qu'on parle aujourd'hui.
Quand on a fait la fusion des banques de données, probablement, là.
Oui, exactement. Puis c'est pas rare que c'est des occasions comme ça. Parce que souvent, c'est des systèmes qui sont vraiment pas compatibles, disparates, et que là, après coup, ils découvrent des failles qui ont été créées à la suite de la fusion, mais qui ne donnent pas le temps d'aller retrouver après coup, parce que c'est des trucs en temps réel. Puis évidemment, eux autres, vu que c'est une entreprise privée, bien, l'argent, c'est très important. Ils vont prôner ça plutôt que de protéger les données des gens.
Bon, quand on dit qu'on soupçonne la Chine d'être derrière des piratages comme ceux-là, est-ce qu'on parle d'entreprises chinoises clandestines? Ici, on parle vraiment du gouvernement chinois qui pourrait être derrière ça.
Et même l'amateur, le hacker amateur, serait aussi intéressé pour revendre ces informations-là. Fait que les trois scénarios sont toujours possibles. La Chine, la façon qu'elle est, puis veut dire, on l'a vu dans le dossier, puis j'en ai parlé beaucoup avec le dossier de Huawei dans le mois de décembre, c'est la façon, le modus operandi de la Chine, où ils vont mixer l'accès à des données d'entreprises privées et pour les besoins d'espionnage industriel du gouvernement. Et le gouvernement chinois veut dire, ils s'en sont pas cachés, c'est clair. Ils veulent devenir la dominance économique mondiale par d'ici de 2025. Et là-dessus, ils vont prendre tous les moyens nécessaires pour aller chercher l'information, surtout la propriété intellectuelle des organisations, pour être en mesure de la prendre, ces infos-là, et l'amener dans son industrie, dans son économie, et faire en sorte que le monde entier vienne acheter chez eux et non pas faire ça chez chacun d'eux. Donc, l'utilisation de ces données-là, ça peut être autant le gouvernement chinois que les entreprises privées, que le particulier, comme je disais, qui va aller revendre ça sur le marché noir.
Bon. Est-ce qu'il y a juste les Chinois qui sont méchants dans le monde informatique ou si nous autres aussi, on fait à peu près la même affaire? Là? Parce qu'il y a des réseaux qui existent. On pense à Echelon, par exemple, à UQUSA, des réseaux qui regroupent différents gouvernements et dont le but est d'aller chercher de l'information sur les gens.
Tout à fait. Ça, c'est j'appelle ça des outils défensifs, des outils de prévention qui, sont capables à ce moment-là d'être capables de capter l'information en temps réel, je peux le dire, et peut s'en servir à ce moment-là pour des fins politiques ou des fins pas économiques surtout, mais surtout des fins politiques. Là-dessus, lorsqu'on dit qu'on va détecter qui va faire un effet, ben la Chine, c'est le premier suspect dans beaucoup de cas, comme on a eu ici au Canada, beaucoup de cas de vol de propriété intellectuelle, puis dans le cas de Huawei, ça en a un autre qui prend. C'est un joueur majeur. Les Russes, c'est des joueurs, surtout le crime organisé en Russie, ce sont des joueurs clés pour aller faire du vol d'informations financières, vol d'identité, mais n'importe quel pays. Et surtout, on a vu de plus en plus, durant les 10 dernières années, beaucoup plus de particuliers avec des connaissances techniques poussées. Ça donne à faire ces genres de trucs-là, de vol d'informations. Puis on l'a vu avec les multiples cas de rançon logiciel et ransomware, où les gens vont crypter l'information d'un réseau ou d'un PC en particulier et demander des rançons. Fait que ça, les gens, il y en a qui se sont bâtis et mènent une carrière d'aller chercher des rançons comme ça. C'est là que tout ce qui est informatique, autrement dit, peut être pénétré dans le sens d'être hackable, comme on dit dans le terme technique. Il s'agit de ce moment-là de s'assurer qu'on a toujours les bons backups à jour, et surtout d'être prêt à faire face à d'éventuelles prises d'informations, prises de contrôle de notre réseau. Parce qu'il y en a des organisations qui s'en sont très bien tirées à la suite de rançons logicielles qu'ils ont infestées, alors qu'il y en a d'autres que ça a pris des mois. Je pense entre autres à certaines commissions scolaires en disant ça, pour revenir à la normale.
Mais est-ce que des gouvernements comme le gouvernement canadien, le gouvernement américain, le gouvernement britannique, par exemple, et d'autres gouvernements font aussi la même chose que ce qu'on soupçonne des Chinois?
Oui, le côté de l'Ouest font de toute question. Je m'explique en deux façons, Louis, c'est que la posture nord-américaine, mettons ça comme ça, les Five Eyes, le club des cinq amis, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, eux vont y aller pour des raisons politiques, et cela, pas économiques, c'est-à-dire mais militaires. Et ils vont utiliser ces moyens pour ça. Et la loi ici interdit au SCRS et au service de renseignement d'espionner les Canadiens comme sur leur propre sol. Ça relève de la loi. Et s'il doit y avoir une interception électronique, ça doit être fait sous mandat d'un juge et la police avec les outils appropriés. Mais si on va à l'extérieur, ça n'empêche pas justement que un Canadien peut devenir un sujet d'intérêt pour une autre nation. Et après coup, il y a des échanges en arrière qui se passent entre eux autres. Je veux dire, ça, c'est de la bonne procédure, comme on dit. Mais il reste toujours bien. La France, est-ce que l'intérêt... Un exemple réel, par exemple, c'est le Brésil. Est-ce que le Brésil aurait un intérêt de venir espionner au Canada et vice-versa? Ben, le Brésil développe une aéronautique fantastique, Embraer, juste pour le nommer. Et quand il y a eu j'appelle ça les problèmes avec Bombardier, ben oui, il y en a eu des situations similaires. Et ce qui est dommage, des fois, c'est que des grands comme Bombardier, ben, il n'y a pas tout à fait une bonne culture de la protection de l'information. Puis moi, dans mes prédictions de 2019, ça en est une où ce que peut-être Bombardier va se faire faire un peu la passe comme il y a eu à Nortel dans les bonnes années.
Ouais. Parce que si vous allez vous promener à Ottawa, Et puis, vous passez juste à côté du marché bail, vous avez l'immense ambassade des États-Unis, là. Puis, il y a une espèce de tour, de dôme sur le dessus de l'ambassade des États-Unis. Il y a personne qui pense que ça a été fait pour être joli, là, hein?
À la base, il faut que ça soit joli, justement, pour éliminer tout soupçon. Et oui, à l'intérieur de beaucoup d'ambassades, tous les ambassades de tous les pays ont des programmes de pour pas dire d'écoute électronique, mais bien d'être capable de capter de l'information de partout où ils sont. Il y en a que ça est envers les ressortissants qui demeurent dans les pays. Il y en a d'autres que ça va être envers des compétiteurs, envers des nations compétitrices même, pour être capable d'aller chercher cet avantage d'information et de s'assurer de comprendre surtout la dynamique. Parce que lorsque le Canada aussi, il y en a des trucs comme ça, puis c'est pas moi qui brise le silence en disant ça. Je veux dire, il y a des ouvrages qui ont été écrits déjà là-dessus dans le passé, citant qu'il y a des postes d'écoute électronique et on est capable de capter qu'est-ce qui se passe. Ça aide-tu le Canada? Définitivement. Est-ce que ça aide les alliés? Aussi. C'est un échange encore là de bons procédés. Et avec le temps, ça nous donne justement les informations pour souvent actualiser des politiques ou surtout peut-être de réorienter des techniques avec lesquelles peut-être les organisations, même ça peut aider l'économie du Canada dans certains cas, j'ai déjà vu.
Il y a à Lethbridge en Ontario notamment. Là, si vous passez par là, vous allez voir des espèces d'immenses boules blanches là. Et puis c'est pas des boules de quilles.
Non. Des grosses balles de golf, oui.
Exactement. Steve Waterhouse, merci beaucoup de ces lumières sur le monde informatique.
Ça m'a fait plaisir, Louis. Au revoir.
Steve Waterhouse est expert en sécurité informatique.